à tout prix la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je m'appelle Sabine Janssen, je suis historienne, professeure au Conservatoire national des arts et métiers et auteure de l'ouvrage « Les boîtes à idées de Marianne » paru aux éditions du Cerf en 2017 et pour lequel j'ai reçu le prix Jean Saint-Denis décerné par l'Académie des sciences morales et politiques. Ce livre est le fruit d'une recherche qui m'a conduite en Grande-Bretagne et aux États-Unis sur la trace des premiers think tanks français. Aujourd'hui, le terme de think tank qui veut dire littéralement réservoir à penser et que j'ai traduit dans le titre de mon livre par l'expression boîte à idées est tombé dans le langage courant. Et pourtant, il a été longtemps ignoré, mais aujourd'hui, c'est vrai que le mot lui-même connaît un grand succès dans les médias. Toutefois, on le verra, c'est un pavillon qui couvre des marchandises assez diverses. Alors mes recherches sont nées comme souvent d'une curiosité et de questions auxquelles je cherchais des réponses. Ayant l'occasion d'animer un séminaire commun avec Thierry de Montbrial, membre d'ailleurs de l'Académie des sciences morales et politiques et directeur de l'IFRI, Institut français des relations internationales, je m'interrogeais sur les activités réelles de cette association, c'est-à-dire l'IFRI, loi 1901 reconnue d'utilité publique. Ça me paraissait, pour tout dire, un peu mystérieux. On y menait des travaux à caractère scientifique, mais ce n'était ni université ni un laboratoire de recherche. On y voyait défiler quantité de personnalités politiques et de chefs d'entreprise, mais ce n'était ni un parti, ni un lobby, et a fortiori, pas une entreprise commerciale, même si d'une certaine façon, il vend des services. C'est donc à partir de cette interrogation première que j'ai décidé de me lancer dans ce travail historique sur les origines des think tanks de relations internationales en France. Il faut dire que cet intérêt a germé sur le terrain de recherche précédente dans le cadre d'un livre publié en 2002 chez Fayard. J'avais travaillé sur Pierre Cotte, l'ancien ministre de l'ère du Front populaire. Et j'avais mesuré à ce moment-là, comme il avait nationalisé les industries aéronautiques, l'importance de l'expertise dans la prise de décision politique. Mais il faut le dire, l'expertise dans les relations internationales, ça n'est pas anodin. Pourquoi ? Parce que ça relève du domaine régalien, du domaine de l'État, et surtout en France, on le sait, l'État est particulièrement jaloux de sa décision. Et il peut d'autant plus l'être que très tôt, en France, l'État s'est doté d'un corps d'experts. Alors, le think tank donc, fournit de l'expertise, et avec l'expertise se pose aussi la question de l'influence. C'est un autre aspect de ce sujet. Et de fait, longtemps inconnus ou ignorés, les think tanks sont accusés aujourd'hui d'être un peu des faiseurs d'opinion et des conseillers occultes du prince. En quelque sorte, la République des experts menacerait la démocratie. Et cette crainte est alimentée d'ailleurs par le rôle que jouent les think tanks aux États-Unis. On se rappelle par exemple que l'attaque de l'Irak en 2003 a été planifiée de longue date par un think tank néo-conservateur qui s'appelle Project for the New American Century. Et on voit bien que dans certains pays, et c'est le cas aux États-Unis, les think tanks ont un rôle, un poids très important. Alors, précisons tout de suite que ce n'est pas le cas en France, pour des raisons qui tiennent justement à cette place de l'État et de son corps de haut fonctionnaire. Néanmoins, les think tanks ont plus d'importance aujourd'hui qu'ils n'en ont jamais eu. Il y en a dans le monde à peu près 6500 et 200 environ en France. Alors, à ce stade, qu'est-ce qu'un think tank, justement ? Son statut juridique peut varier, mais c'est d'abord un lieu de débat, d'information, de production, de concepts et de discours. Et il participe de ce fait à une diplomatie non gouvernementale ou paradiplomatie qui repose sur la fonction d'expertise et sur des capacités d'action transnationale. Autrement dit, c'est un instrument d'influence. Un des éléments de ce soft power dont on parle tellement et qui a été théorisé par Joseph Nye, ce soft power s'exerce à l'extérieur par le biais des contacts et d'échanges internationaux. y compris entre think tanks, mais aussi à l'intérieur, dans le cadre de l'aide à la décision. La justification même des think tanks repose sur leur capacité à produire de l'expertise, c'est-à-dire à rendre un avis sur un sujet précis qui s'appuie sur un corpus de connaissances et sur des observations et qui ont pour but, au fond, de produire une analyse rationnelle et de servir de guide à la décision. Alors, l'IFRI, aujourd'hui, est le principal think tank de relations internationales. J'ai retracé en fait sa généalogie, si je puis dire, dans les boîtes à idées de Marianne, et également celle de son ancêtre qu'on connaît moins, qui s'appelle le Centre d'études de politique étrangère. Et aujourd'hui, c'est un fait assez notable pour qu'il faille le souligner, l'IFRI a été classé cette année deuxième think tank au niveau mondial. Alors, on peut s'interroger comment est-ce que la France, toujours un peu rétive aux innovations anglo-saxonnes, peut-elle aujourd'hui se trouver en tête des classements mondiaux pour ces think tanks de relations internationales. Alors il faut revenir peut-être sur, en quelques mots sur les origines. Les think tanks ont été créés tout de suite après la Première Guerre mondiale. Ce sont un peu les enfants du premier conflit mondial. C'est d'ailleurs lors des négociations du traité de Versailles qu'on voit pour la première fois dans les délégations, à côté des délégations politiques, des techniciens, des délégués techniques, c'est-à-dire des géographes, des linguistes, des juristes, qui vont prêter la main aux politiques pour prendre des décisions en matière de découpage territorial, par exemple, ou de réorganisation de l'Europe. Et dans le sillage donc, du traité de Versailles, les Américains et les Anglais, et d'ailleurs il faudrait dire d'abord les Britanniques et les Américains, créent des think tanks. La France, elle, va également en créer un, c'est le Centre d'études de politique étrangère que je citais tout à l'heure, mais un peu en décalage, au milieu des années 30, à partir de 1935. Sa fondation s'explique dans un contexte de, je dirais, d'affaiblissement de l'esprit de Genève, c'est-à-dire d'affaiblissement de tout l'espoir qu'on avait placé dans la société des nations et dans la sécurité collective, et dans un contexte aussi de tension internationale qu'on connaît bien, qui va mener à la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce centre d'études de politique étrangère va être soutenu d'ailleurs par les fondations américaines philanthropiques, la dotation Carnegie, la fondation Rockefeller. Et à sa tête, eh bien, il y aura de nombreux universitaires, notamment des académiciens également, enfin à la fois universitaires et académiciens. Je pense par exemple à Sébastien Charletti. On aura également des gens comme André Siegfried, Louis Jox, qui va être l'un des premiers secrétaires généraux. Bref, tout un vivier de personnalités du monde académique. On va trouver aussi des gens plus jeunes qui vont y faire leurs armes. Je pense à Hubert Beuve-Méry, par exemple, ou à Pierre Flimelin, qui vont tous les deux publier dans les éditions du Centre d'études de politique étrangère. Et donc là, on voit se développer cette espèce de centre de recherche consacré aux relations internationales. Alors bien sûr, la guerre met un coup d'arrêt à ces activités, mais d'ores et déjà, ce qu'on souligne et qui me paraît intéressant de montrer, c'est que le CEPE, donc un think tank avant l'heure, est déjà confronté au problème général des think tanks, c'est-à-dire comment, avec le savoir, la recherche, l'information, comment permettre la prise de décision politique, au fond, quelle est la portée pratique de toutes ces recherches qui vont être faites. Je pense par exemple au livre d'Hubert Beuve-Méry qui s'appelle « Vers la plus grande Allemagne », qui annonce donc l'extension du Troisième Reich et l'agression du Troisième Reich. Eh bien, ce livre, quoi qu'il annonce effectivement les ambitions territoriales de l'Allemagne, n'empêchera pas le conflit d'avoir lieu. Et évidemment, là, je n'ai pas le temps dans le cadre de cet exercice de développer plus, mais on voit très bien que le savoir n'est pas le pouvoir et que tous les plans qui sont faits, y compris au niveau d'un groupe franco-britannique qui se met en place en 1938, tous les plans qui sont faits, les recherches qui sont faites, sont toujours en retard par rapport à l'actualité internationale et en particulier par rapport aux initiatives sur le terrain de Hitler. Donc ça nous ramène effectivement à cette question de l'influence et de la façon dont les think tanks peuvent en quelque sorte faire passer leurs messages, porter leurs messages éventuels. Alors ce centre d'études de politique étrangère renaît après la Deuxième Guerre mondiale. Il va du reste prospérer sous la Quatrième République. Alors d'une manière intéressante parce que là il devient une sorte de bureau d'études du gouvernement et du ministre des Affaires étrangères. Alors pourquoi ? Parce que on est dans une période où les questions internationales sont très importantes. N'oublions pas qu'après 1945, nous avons tout le mouvement de décolonisation, nous avons donc toute une série de conflits, nous avons également la construction européenne. Donc autant de sujets qui requièrent de l'expertise dans le domaine international, que par ailleurs le Quai d'Orsay, c'est toujours vrai aujourd'hui, est une petite administration, donc elle manque un peu de force vive. Ces agents sont accaparés par les tâches quotidiennes, d'où l'intérêt d'avoir un peu à disposition pour le gouvernement un vivier de gens qui connaissent bien les questions internationales. Et puis enfin, la troisième raison qui a contribué aussi au développement de ces think tanks, c'est tout simplement que la chose internationale s'est à la fois complexifiée. Et elle a, depuis d'ailleurs le début du XXe siècle, mais ça s'est accéléré à partir de 1945, elle a échappé de plus en plus au ministère des Affaires étrangères. Depuis donc le début du XXe et même le milieu, et a fortiori le milieu du XXe siècle, on constate que tous les grands ministères sont dotés de directions ou de services qui se consacrent aux questions internationales. Et évidemment, ça nous renvoie à la mondialisation. La première a eu lieu à la fin du 19e siècle et la deuxième vague, eh bien, elle commence dans les années 50 et elle se poursuit et même explose depuis les années 90 avec tous les bouleversements que nous avons connus. Donc ce CEPE devient, je le disais, une sorte de bureau d'études. Alors il y gagne en visibilité, il y gagne en légitimité. Parce que le fait de conseiller le prince, ce que fait finalement le CEPE, c'est assez gratifiant. C'est gratifiant dans tous les sens du terme, parce que du même coup aussi, le CEPE trouve de nouvelles ressources là qui viennent du gouvernement, des études qui lui sont commandées. Mais ce qu'on peut considérer comme un âge d'or ne va pas durer. D'abord, lorsque De Gaulle arrive en 1958 au pouvoir, bien sûr, il va lui aussi utiliser les services du CEPE, parfois pour lancer des ballons d'essai dans l'opinion publique, notamment sur le retrait de la France du commandement intégré de l'Alliance Atlantique. Il demande explicitement au CEPE de faire écrire un article sur le sujet pour voir comment va réagir l'opinion et les milieux internationaux. Donc, de ce point de vue-là, le CEPE reste, si je puis dire, en cours dans les années 60, mais il a des difficultés quand même financières et par ailleurs, le général de Gaulle a interdit désormais tout financement d'origine américaine. Donc ça met le CEPE en grande difficulté, qui par ailleurs a des cadres qui vieillissent et il ne parvient pas à se rajeunir, il ne parvient pas non plus, et ça c'est un point fondamental, qui prépare la génération suivante de think tank, il ne parvient pas à créer de lien avec le secteur privé, c'est-à-dire avec le monde de l'entreprise qui est un peu en première ligne dans le processus de mondialisation que nous connaissons aujourd'hui. Alors, je voudrais finir en abordant maintenant justement la génération suivante, c'est-à-dire comment le CEPE fait une sorte de mutation et se transforme en Institut français des relations internationales, IFRI, qui existe toujours et qui va véritablement incarner la renaissance de ces recherches et de ces débats sur les relations internationales. L'homme de cette rénovation, ça va être Thierry de Montbrial, qui est sensibilisé à la question des think tanks parce qu'il connaît bien les États-Unis et surtout qu'à partir de 1973, il devient le chef du centre d'analyse et de prévision qui est créé par Michel Jobert et qui est directement rattaché au ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire lui-même, Michel Jobert. Pourquoi cette création du CAP que j'explique dans les boîtes à idées de Marianne? Parce que, justement, le gouvernement et en particulier le ministre des Affaires étrangères a conscience que la France manque un peu de force de frappe en matière internationale, qu'il lui manque un organe un peu capable de réfléchir à long terme. Et donc, il met sur pied ce CAP avec un jeune polytechnicien qui est alors Thierry de Montbrial, avec à ses côtés Jean-Louis Gergorin. Et ils vont précisément construire une petite cellule qui va faire au fond un peu le travail que faisait le CEPE avant, mais avec une dimension prospective encore appuyée. Et ça conduit Thierry de Montbrial à donc faire partie du conseil d'administration du Centre d'études de politique étrangère et à voir au milieu des années 70 que ce CEPE est un peu en train d'agoniser. Il propose donc une rénovation complète et il va pouvoir le faire en s'appuyant sur le pouvoir politique, en l'occurrence, c'est-à-dire Valéry Giscard d'Estaing et beaucoup plus directement sur son secrétaire général, Jean-François Poncé, et le secrétaire général du Quai d'Orsay, qui s'appelle Jean-Marie Soutou, le père de Georges-Henri Soutou, un professeur d'histoire des relations internationales bien connu et lui-même d'ailleurs membre de l'Institut. Et c'est donc avec ses appuis qu'il va, non sans mal, il faut le dire, prendre la direction du CEPE. Ça va être un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'ambassadeurs qui sont un peu âgés et qui voient d'un mauvais œil ce jeune homme de 36 ans venir prendre donc cette direction. Mais finalement, tout va bien se passer. Et Thierry de Montbrial va totalement renouveler le travail du CEPE et va même d'ailleurs lui changer son nom. Alors comment est-ce que l'IFRI prend son essor et pourquoi est-ce qu'il atteint une dimension nouvelle? C'est ce que nous allons voir maintenant. D'abord, l'IFRI va être très, très bien soutenu par les associations philanthropiques américaines. Il renoue donc avec le CEP des années 30. Il est soutenu par la fondation Rockefeller, mais surtout par la fondation Ford, qui va lui permettre d'acheter son siège. Il faut dire aussi qu'il bénéficie d'une conjoncture très favorable. On a oublié, mais en 1979, quand l'IFRI est créé, on est en pleine guerre fraîche, c'est-à-dire en plein moment de tensions internationales avec l'Union soviétique. Thierry de Montbrial va rajeunir aussi les cadres, si je puis dire, faire entrer toute une série de jeunes gens très talentueux, Pierre Lelouch, Albert Bresson, Dominique Moisy. Et progressivement, et ça, c'est fondamental, il fait surtout rentrer des chefs d'entreprise. Et on voit progressivement que les universitaires, en quelque sorte, refluent au profit, hein, au bénéfice des décideurs économiques qui vont apporter leur expérience, également leurs besoins. Justement, ce renouvellement, je dirais, des cibles est une véritable révolution parce que Thierry de Montbrial nous un partenariat avec les entreprises très rapidement et ça va permettre, si je puis dire, d'axer davantage les activités de ce think tank sur ce qu'on appelle en mauvais français, n'est-ce pas, le policy oriented, c'est-à-dire tout ce qui est recherche appliquée. Et c'est vrai que le partenariat avec les entreprises va affecter profondément les activités de l'IFRI qui vont être plus axées sur les études économiques et davantage de façon générale opérationnelle. Alors, l'IFRI développe une véritable diplomatie intellectuelle qui donc contribue à cette affirmation du soft power dont je parlais. Et De même, ce soft power passe par le think tank comme force de proposition. Il y a un manifeste qui est publié par quatre directeurs de think tank américains, allemands, français, entre autres, et sur la sécurité de l'Occident. Ils réitèrent sur la communauté européenne où ils font de véritables propositions. On voit donc que les think tanks de relations internationales créent ce que j'appellerais une nouvelle diplomatie davantage, associant davantage la société civile. Et c'est ça qui est aussi, me semble-t-il, la nouveauté fondamentale qui reste d'actualité et que l'on voit d'ailleurs de plus en plus se développer. La dimension relations publiques et communication est également très développée alors qu'elle n'existait pas. Et on peut dire que l'IFRI s'est imposé dans ce paysage des relations internationales, autrefois monopolisé par l'État. Il l'a fait avec beaucoup de dynamisme, à telle enseigne que dès 1985, le nombre de personnes qui travaillaient à l'IFRI est de 41, alors qu'il n'y en avait que 11 au Centre d'études de politique étrangère en 1978. Et le budget va également être considérablement augmenté, ainsi que les liens avec les instituts internationaux. L'IFRI remplit un vrai rôle qui explique qu'en 1981, je le raconte en détail, au moment de l'alternance, lorsque François Mitterrand est élu président de la République, eh bien, il va survivre, ce qui n'était pas évident, parce que c'est vrai qu'il y avait une alternance politique, que l'IFRI était né sous la période giscardienne, et donc il y a eu un peu un moment de tangage, et je raconte comment Hubert Védrine, Régis Debray donc, sont intervenus, et finalement, l'IFRI a pu s'imposer dans le paysage français. Il a même gagné une pérennisation de sa ligne budgétaire à Matignon, ce que le gouvernement de droite lui avait toujours refusé. Et donc, on comprend pourquoi aujourd'hui et dans quelles conditions l'IFRI a pu devenir aujourd'hui le deuxième think tank au niveau mondial.